I'm turning today to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 11 and verse 30.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 30. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 30. S'il faut se glorifier, je me glorifierai de mes infirmités. Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Et le titre de notre méditation, c'est « La chute et l'élévation d'un apôtre ». Paul ici défend son ministère d'apôtre. Et sans récapituler l'étude précédente, nous avons étudié ce passage. Vous savez qu'il a été critiqué grandement par les judaïsants, ces hérétiques qui ont visité l'église à Corinthe, qui ont essayé de les ramener ou de les amener, parce qu'ils étaient non-juifs, au judaïsme. Et les ont forcés à suivre les cérémonies de la loi ancienne pour ôter le salut par la grâce uniquement. L'apôtre Paul est obligé à présent, et il est très réticent à le faire, mais il doit défendre son ministère d'apôtre. Et j'aimerais commencer ce matin avec cette liste extraordinaire de ses souffrances. Nous n'allons pas la considérer longuement, mais c'est important de la considérer. Ceci commence au verset 22. « Sont-ils hébreux ? Je le suis aussi. » Mais nous commençons au verset 23. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23. « Sont-ils ministres de Christ ?» Ces judaïsants, est-ce qu'ils sont sincères ? Est-ce que son pasteur réellement, ils se disent apôtres, est-ce vrai ? Quelle est la différence entre eux et moi ? Dit l'apôtre Paul. Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en imprudent. Ce serait insensé que de se défendre ou de parler ainsi, de parler de lui-même, de ses accomplissements, de ses souffrances, et il ne voudrait pas le faire de manière naturelle. Ce n'est pas quelque chose que les pasteurs doivent faire ou que les chrétiens doivent faire, mais ici il est forcé à le faire parce qu'il a été critiqué. Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en imprudent, je le suis plus encore. Bien sûr, ils ne l'étaient pas, mais il continue cette comparaison. Et ainsi, il fait la liste de ses souffrances. Plus je le suis par les travaux. Ce terme « travaux » est un terme fort, qui signifie « travailler dur ». Et ceci vient d'une racine qui signifie « couper ». C'est un travail dur et plein de sacrifices qui coûte beaucoup, avec beaucoup de peine. Un travail qui coûte plus que de l'énergie, ce qui est déjà beaucoup, mais une souffrance, des blessures et des difficultés. Et l'apôtre Paul, pendant tout son ministère, a connu beaucoup de peine. Et c'est difficile de commencer des églises dans des endroits non-juifs, avec les juifs contre lui et les non-juifs contre lui. Mais je le suis par les travaux. Un travail difficile, plein de sacrifices, infiniment plus. Les judaïsants n'avaient pas beaucoup de peine dans leur travail, leur message, considérez-le, c'était « vous devez accepter les cérémonies des juifs, vous devez être une secte juive, vous devez accepter le système juif, et ne serez pas persécutés par les juifs à cause de leur ministère, comme l'apôtre Paul. » Parce que ceci, c'était accommoder le christianisme au judaïsme. Ainsi, il n'allait pas souffrir de persécutions, de difficultés. Et parmi les non-juifs, ces judaïsants allaient dans ces églises non-juives comme à Corinthe, mais ils n'étaient pas militants comme lui, ils n'évangélisaient pas, ils ne parlaient pas à la communauté, ils n'avaient pas la persécution de la communauté, ils essayaient de proséliter. Les convertis juifs, ils n'allaient pas plus loin que ceci, et ils vivaient confortablement, ils prenaient les offrandes, ils acceptaient de l'argent, et quand l'apôtre Paul dit « plus je le suis par les travaux », ceci, c'est en réalité fort parce que son travail était considérable et difficile, pénible, mais le leur, aucun effort. Infiniment plus par les blessures. Il a été frappé, fouetté tant de fois, mais il nous le dit dans un moment, mais il a été fouetté plus que ceci. Dans le livre des Actes, ceci se passe après cette lettre. Donc plus tard, il a été fouetté, frappé, encore plus. Infiniment plus par les blessures, plus par les prisons. L'emprisonnement de l'apôtre Paul, et l'emprisonnement à l'époque était quelque chose de terrible, d'être jeté dans un donjon sans rien d'autre. souvent en danger de mort. Nous lisons dans le livre des Actes comment un jour il a été pris pour mort. C'était remarquable qu'il pouvait se lever. Et il a continué à prêcher, à voyager et à prêcher, malgré tout. Et il pensait qu'il était mort. Ceci ne s'est passé pas seulement une fois, mais plus de fois. Et quand vous lisez ce texte, vous réalisez qu'il y a beaucoup de souffrance de la part de l'apôtre Paul qui n'est pas relatée dans le livre des Actes. Simplement une partie est relatée. Oh, combien il a souffert. Souvent en danger de mort, et au verset 24, certains chiffres. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 39 coups. Ceci était terrible. Et il mettait la personne sur une grosse pierre avec les membres en bas. Et il fouettait si terriblement que le sang coulait. C'était si terrible que on voyait les os des gens quand ils étaient fouettés. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, et au verset 25, 3 fois j'ai été battu de verge par les Romains. Tout aussi terrible, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. Pendant l'un de ces naufrages, pendant 24 heures apparemment, un jour et une nuit, il s'est tenu à un bout de bois pour se sauver lui-même. J'ai été souvent en voyage, en danger sur les fleuves, en danger de la part des voleurs, en danger parmi ceux de ma nation. Oui, les Juifs ont essayé plusieurs fois de le faire mourir, en danger parmi les non-Juifs, en danger dans les villes, dans les déserts, sur la mer, parmi les faux frères, trahis par ceux qui se disaient être chrétiens, mais ils ne l'étaient pas. Et à présent, ils sont contre lui et ils complotent pour le faire mourir, au verset 27, dans les peines, dans les travaux. Et il travaillait nuit et jour, il faisait des tentes pour gagner son pain parce qu'il ne voulait pas accepter les offrandes quand il commençait dans un endroit non juif pour démarrer une église dans de fréquentes veilles, c'est-à-dire des nuits sans sommeil, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes. Ce n'est pas un jeûne religieux, c'est être sans nourriture pendant les voyages, par exemple, pour gagner les gens à Christ dans le froid, dans la nudité, au verset 28. Et chaque jour, sans parler des autres choses, je suis assiégé par les soucis de toutes les églises. Et au verset 29, comment l'apôtre Paul s'identifie aux gens? Qui est-ce qui souffre? Que je ne souffre aussi? Peut-être qu'il y avait un pasteur quelque part qui était rétrograde, plein de compromis, sous la persécution, sous la pression, et l'apôtre Paul avait un cœur pour lui. Il était en souci pour lui. Qui est-ce qui souffre, que je ne souffre aussi? Il s'identifiait tellement, il ressentait ces choses, même pour ces gens qui chutaient ou qui étaient faibles. Qui est-ce qui est scandalisé, persécuté, insulté, humilié? Que je n'en suis aussi brûlé. L'apôtre Paul était un homme plein d'amour et d'affection pour les chrétiens, pour les convertis, pour les pasteurs, pour les églises. Et au verset 30, c'est là la liste extraordinaire. Vous pourriez étudier la liste de plusieurs aspects, de plusieurs points de vue. Vous pourriez voir les souffrances physiques qui étaient terribles. Vous pourriez voir la souffrance émotionnelle qui était extrême également. Et vous pourriez voir la nature de la souffrance sans fin et terrible et difficile. Vous pourriez voir ces choses de différents aspects. Mais l'apôtre Paul est un homme qui a souffert. Et nous nous demandons pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu lui a donné tant de souffrances pendant son œuvre, son ministère? Et nous allons considérer ceci dans un moment. Au verset 30, s'il faut se glorifier ou être fier de quelque chose, je me glorifierai de mes infirmités. C'est là la méthode de l'apôtre Paul. Si seulement nous pourrions faire ceci également, si quelqu'un nous flatte, si quelqu'un nous dit quelque chose que nous aimons entendre, plaisant, ou si le diable nous murmure quelque chose à l'oreille, « Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as accompli ceci ou cela. » La méthode de l'apôtre Paul, c'était de se glorifier dans ses infirmités. Il a pensé à ses échecs, à ses faiblesses, à ses infirmités, ces choses qu'il ne pouvait pas accomplir sans la toute-puissance et l'aide de Dieu. C'est là ce à quoi il pensait. « Si je veux être fier, dit-il, si je veux me glorifier, si je veux penser à quelque chose, C'est pour considérer tous mes besoins, toutes mes infirmités, toutes mes faiblesses. S'il faut se glorifier, je me glorifierai de mes infirmités. Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À présent, et ceci nous amène à un nouveau point, au verset 32. Et ce point, c'est un retour au départ. Et vous verrez pourquoi dans un moment. L'apôtre Paul retourne au départ, au verset 32, à Damas. Le gouverneur pour le roi Arétas, c'est-à-dire Arétas IV, un roi de la région aux alentours de Damas, qui régnait pour Rome, le roi Arétas avait fait garder la ville des Damaséniens dans l'intention de se saisir de moi. Mais on me descendit de la muraille par une fenêtre, dans une corbeille, et j'échappai de ses mains. Pourquoi est-ce qu'il parle de ceci ici? De siècle en siècle, les gens se sont demandé pourquoi est-ce qu'il parle de ceci ici. Et certains, parmi les commentateurs de la Bible, regardent ces deux versets, versets 32 et 33, et disent « Ces versets ne font pas partie de ce texte. Il y a cette liste extraordinaire des souffrances de l'apôtre Paul. Et il y a un événement ici qui est rappelé, qui est difficile, mais pas si difficile parce qu'il n'est pas blessé, il ne souffre pas. Il s'échappe. Ceci semble ne pas appartenir à ce chapitre. Et ces gens qui doutent de la Bible et qui commentent avec des yeux critiques ont toutes sortes de suggestions pour expliquer comment ces versets sont venus ici. Mais bien sûr que ces versets appartiennent à ce texte, et plus vous considérez ces versets, ceci devient évident pour vous. L'apôtre Paul a fini cette liste et il dit « Je me glorifierai dans les choses qui sont en relation avec mes infirmités, avec mes limites, mes faiblesses, ces choses que je n'aurais pas pu faire sans le Seigneur. » Et ensuite il dit « À Damas, il revient au départ. » Et ceci est approprié. À ce moment-là, il avait été converti. Il était sur la route de Damas. Il s'approchait de la ville pour persécuter les chrétiens avec l'autorité des chefs juifs à Jérusalem. Il était quelqu'un d'important. Il avait la puissance. Et il avait des soldats avec lui. Probablement, il était sur un cheval, même si l'Écriture ne nous le dit pas. Et certains l'accompagnaient. Et quand le texte dit qu'il a été jeté à terre, c'était de son cheval, il est tombé de son cheval. Ce n'est pas qu'il marchait, il était un individu important, avec une grande position. Il persécutait Christ. Et il a été converti, comme vous le savez. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et la lumière qui resplendissait comme le soleil Christ lui est apparu. Ensuite, il a perdu la vue. Et sans nourriture, sans eau, il jeûnait. Et Ananias a été envoyé pour le guérir, pour lui donner la première prophétie qu'il allait être un messager de Dieu. Et comme il a causé la souffrance, lui-même allait souffrir grandement. Et dans Actes 9, immédiatement, le récit nous dit qu'il a commencé à prêcher Christ. Vous voyez ici qu'il y a dans Saul de Tarse toutes les informations dont il avait besoin. Il connaissait toutes les promesses messianiques, il connaissait toutes les promesses de la venue de Christ, du Messie, et à présent, il a compris, il a rencontré Christ. Il a été transformé et ébranlé. Il avait cet arrière-plan de connaissances et il est retourné à la parole avec des yeux illuminés, avec de nouveaux yeux pour prêcher Christ. Et bien sûr, les Juifs haïssaient ceci. Ils étaient furieux, ils étaient contre lui, et les non-juifs également le haïssaient. Et les chefs des Juifs à Damas et les autorités de Damas, ensemble, ont décidé de se saisir de lui, parce que nous voyons ici le roi Arétas, c'était le roi et le gouverneur qui se demandaient « Qu'est-ce que je vais faire de cet homme ? Saisissez-le, exécutez-le » et les Juifs voulaient le persécuter eux-mêmes. Ils étaient là à la porte de la ville jour et nuit et il s'est échappé. Mais ici, dans 2 Corinthiens chapitre 11, ne voyez-vous pas que ceci appartient à ce récit? Paul est entré dans la ville comme étant quelqu'un, un persécuteur, quelqu'un avec autorité, avec une position, avec des lettres d'autorité envoyées par les chefs des Juifs pour persécuter les chrétiens. Et il repart de cette ville comme étant un homme humble. Un expert dit « Il est descendu dans la faiblesse de ce mur dans un panier qui sentait le poisson. Comme un fugitif, il fuyait la condamnation, la mort. Pourquoi ? C'est là son introduction à son ministère d'apôtre. C'est là le début de son ministère pour Christ. Il entre avec une position et il ressort. Il a tout perdu. Il a tout abandonné. Aux yeux du monde, il n'était plus personne. Il n'était rien. Et ceci, c'est typique de l'Écriture. Quelqu'un monte, quelqu'un s'élève et il est humilié. Le nouvel apôtre est humilié. La prophétie de Dieu s'accomplit déjà. Il va souffrir tant de choses et bien plus que ce jour-là. À présent, il est un apôtre. Il n'allait pas être accepté par le monde. Il est un ministre de Christ. Il ne va pas rechercher l'honneur du monde et la célébrité et l'argent et les richesses, mais il sera repoussé du monde et rejeté du monde comme le Seigneur. C'est là son introduction à ceci. Non seulement cette anecdote parle de sa première expérience dans le ministère, ceci fait partie de ce texte à la fin de cette liste extraordinaire de ses souffrances, mais ceci introduit également la prochaine phase de son ministère. Mais on me descendit de la muraille par une fenêtre dans une corbeille, et j'échappai de ses mains. Il a été humilié aux yeux du monde, descendu de la muraille. Et au chapitre 12, le premier verset, et vous voyez l'Écriture, comment elle fonctionne souvent, et ceci est merveilleux. Certainement, il ne me convient pas de me glorifier, car j'en viendrai à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a plus de 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e siècle. Si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Il a été ravi ou élevé, littéralement. Il est entré en Damas, en haut. Il est humilié physiquement, humainement parlant, mais pour qu'il puisse être élevé spirituellement par Dieu, avec le privilège d'une révélation unique pour poser le fondement de l'Église du Nouveau Testament. Nous n'allons pas dans ces détails à présent, mais vous voyez la manière par laquelle la parole de Dieu œuvre. Les gens disent « Oh, ce passage ne fait pas partie, et ceci n'est pas approprié ici », mais ils ne comprennent pas que ceci est tout à fait à sa place. J'en arrive à mon troisième point, le but des souffrances de l'apôtre Paul. Et je reviens au verset 23 du chapitre 11. « Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en imprudent, je le suis plus encore. Plus je le suis par les travaux. » Quels étaient les buts de la souffrance de l'apôtre Paul ? Tout d'abord, et je vais vous donner plusieurs buts, tout d'abord, pour authentifier son appel. Oui, il allait être authentifié par les prophéties, il allait donner des prophéties à court terme, à moyen terme et à long terme, et les prophéties à court terme allaient s'accomplir pour l'authentifier. Il allait être authentifié également par la capacité de faire des signes et des prodiges et des miracles qui étaient uniques aux apôtres de l'époque. Ceci allait l'authentifier, mais il sera également authentifié par ses souffrances. C'est là son argument. Sont-ils ministres de Christ ? Sont-ils authentiques ? Je parle en imprudent, je le suis plus encore, je suis également authentifié par mes souffrances, dit-il. Il était prêt à prêcher Christ, peu importe le prix à payer. Il allait aller à Jérusalem. Est-ce qu'il sera accepté plus à Jérusalem qu'à Damas ? Non, bien sûr que non. À Jérusalem, il y aura beaucoup de convertis. Il y en avait beaucoup à l'époque déjà, mais dans son ensemble, la population était si patriotique en tant que juif qu'ils allaient haïr l'apôtre Paul, celui qui était si élevé dans leur société, dans leur structure ecclésiastique, un persécuteur des chrétiens. Il serait furieux de le revoir, mais il était prêt à aller à Jérusalem et à prêcher à Jérusalem. Je le suis plus encore, plus je le suis par les travaux. Souvenez-vous que l'apôtre Paul avait en particulier besoin d'être authentifié, parce que il va écrire l'écriture inspirée. Une grande partie du Nouveau Testament a été écrite par l'apôtre Paul. Pendant des générations, Nous, chrétiens, nous allons considérer ces versets et nous allons dire que nous sommes certains que ces livres sont inspirés par la parole de Dieu, parce que l'apôtre Paul a été authentifié par le Seigneur ressuscité, parce qu'il pouvait faire ses signes, ses prodiges, ses miracles. Et voyez sa vie et sa consécration extraordinaire, et il n'a pas souffert autant que Christ, qui a souffert la condamnation éternelle du péché pour tous ses enfants à la croix du calvaire. Mais combien l'apôtre Paul a souffert en tant qu'homme pour l'évangile. Et ceci l'authentifie. Nous avons besoin de considérer ces passages et de dire « Oh, cette épître a été écrite par Paul, l'apôtre, est-ce qu'il était un homme sincère ? Oh, voyez-le ! Voyez sa consécration, voyez ce par quoi il est passé. Est-ce que quelqu'un, est-ce qu'un serviteur de Christ peut être plus sincère que l'apôtre Paul ? Et ceci nous rassure, nous fortifie, et ceci authentifie l'apôtre Paul pour nous. Ainsi, oui, tout pasteur n'est pas appelé à souffrir comme l'apôtre Paul a souffert continuellement dans sa vie, mais nous pouvons comprendre le principe et voir que ceci les a aidés à ce moment-là parce qu'il est allé à Jérusalem. Et dans Actes chapitre 9, vous pouvez lire tout le récit, comment il a été présenté aux apôtres à Jérusalem. C'est là Saul de Tarse. À présent, Paul, nous ne savons pas exactement quand cette transition s'est passée, mais c'est là Saul de Tarse, et Acte 9 nous dit que les chrétiens à Jérusalem doutaient de lui. N'est-ce pas là celui qui nous persécutait ? Est-ce que les gens n'ont pas été mis à mort par l'activité de cet homme ? Comment est-ce que lui peut être l'un de nous ? Et vous remarquez que ces gens qui ont amené l'apôtre Paul en avant pour être acceptés par l'Église à Jérusalem, par les apôtres, ils ont dit « Voyez-vous, c'est là ce qu'il a fait à Damas. Immédiatement, il a prêché Christ. Et ceci a amené toute la persécution sur lui de la part des Juifs et des non-Juifs. Et nous l'avons fait échapper de la ville dans un panier à poissons. Tout juste, et quand ils ont entendu parler de sa persécution, de la réaction à son message, ils ont dit « D'accord, nous sommes certains, nous pouvons voir qu'il aime le Seigneur Jésus. » Et qu'il fera tout pour lui, qu'il est prêt à tout faire pour lui, même si cela lui coûte sa vie. Ainsi, vous dites pourquoi la persécution, pourquoi les difficultés, la souffrance de l'apôtre Paul. Et après sa fuite de Damas, quand il a commencé dans son ministère, c'était là un des buts d'être accepté par l'Église de Jérusalem et d'être envoyé après cela dans son ministère. Je me rappelle, il y a quelques années, un jeune homme est venu parmi nous et il parlait bien de lui-même, de ses convictions, et il voulait étudier pour être pasteur, il voulait servir le Seigneur, etc. Mais il avait un problème. Son père était pasteur dans l'église de Pentecôte, un pasteur de la prospérité, et lui était étudiant à ce moment-là. Et quand il était à la maison, la règle de son père, c'est qu'il devait aller dans cette église, l'église de son père. Et il nous disait, oh, il ne pouvait plus le supporter à cause de tout ce qui n'était pas scripturaire. Et ceci était un fardeau sur son cœur. Ainsi, nous l'avons accueilli et nous l'avons logé dans un endroit pour qu'il puisse étudier avec nous. Mais après 2 ou 3 jours dans cet endroit où il était logé, il a découvert, comme des millions d'autres étudiants, qu'il devait cuisiner pour lui-même et faire d'autres choses. Soudainement, il est rentré chez sa maman. Il a changé d'avis parce que sa maman le nourrissait, le logeait et tout était fait pour lui. Et il a accepté cette église malgré toutes ces choses qu'il a rapportées par rapport à cette église et nous ne l'avons plus vu pendant des années. Pourquoi est-ce que je vous dis ceci ? Oh, c'est simplement une application. L'apôtre Paul dit aux gens de Corinthe, « Vous connaissez mes souffrances pour le Seigneur. Vous savez que peu importe ce que cela m'a coûté, j'ai prêché Christ. Vous savez que j'ai travaillé dur. » Et il le savait. Est-ce que vous voyez ceci dans les judaïsants ? Non, il ne voyait pas ceci dans les gens hérétiques. Et de même de nos jours, je me rappelle d'un diacre dans une église bien loin d'ici, au Royaume-Uni, une église pour laquelle nous avons prié il y a bien des années. Et il voulait un pasteur, un nouveau pasteur dans le ministère. Et ils ont écouté un homme, ils aimaient sa prédication, et les diacres allaient le recommander pour être pasteur dans l'église. Et ensuite, il a présenté sa liste de ce qu'il voulait. Il voulait une maison avec 5 pièces, il n'était pas encore marié. Il voulait une grande maison, il voulait ceci et cela et autre chose. C'était une grande liste de tout ce qu'il voulait. Ils nous l'ont dit après. Et les diacres se sont regardés et ils ont dit « Oh, je crois que nous avons fait un mauvais choix. Je ne pense pas que nous pouvons le recommander à l'église. » Non, ils étaient bien sages, pleins de sagesse. Et c'est là l'un des avantages d'être plus âgé, même si ce n'est pas beaucoup un avantage. Quand vous regardez dans le passé, vous voyez certains jeunes hommes voulaient être pasteurs, mais ils n'ont jamais rien fait dans l'église. Ils n'étaient pas intéressés, comme beaucoup d'autres, à être volontaires pour enseigner les jeunes, les enfants, l'école du dimanche, pour visiter les enfants. Ils n'ont pas donné de preuves. Et j'ai pensé à plusieurs personnes ainsi, mais je peux aussi repenser à d'autres personnes qui étaient l'opposé, qui étaient volontaires. Mais certains ne montraient pas de preuves d'être consacrés, d'être zélés, et de ce feu en eux, de ce désir en eux pour l'Évangile. Et ainsi, nous ne pouvons pas les prendre au sérieux. Mais ils ont trouvé un institut biblique qui allait les accepter, et ils sont entrés dans le ministère. Certains ont abandonné avec le temps, ceci n'est pas très surprenant, d'autres ont continué. C'était un peu une carrière pour eux, ils allaient d'une église à l'autre pour avoir une église de plus en plus grande, pour monter dans leur carrière. Et en regardant en arrière, vous regardez cette église et vous dites « Oh, elle est pleine de compromis, elle a accepté toutes sortes de choses qui sont terribles et qui ne sont pas justes pour une église qui croit dans la Bible. » Et ce frère a tout accepté. Il a accepté ces choses. Il a accepté le compromis. Et vous vous dites, je ne suis pas surpris. Quand il était jeune, il n'a jamais donné de preuve d'une conviction sincère et d'un zèle ou de faire quoi que ce soit qui avait besoin d'effort. C'est un signe que l'apôtre Paul était capable de dire, « Vous me connaissez. Vous savez comment j'ai travaillé dur. » Et vous savez tout ce qui s'est passé dans ma vie, vous savez que j'ai tout donné pour le Seigneur et pour vous en tant qu'Église. Oh, je voulais vous donner d'autres points, mais mon temps est passé. Peut-être que nous pouvons continuer dans une autre étude. Mais il y a 5 ou 6 raisons extraordinaires que vous pouvez voir dans l'Écriture et je vais vous montrer ces passages. La raison pour laquelle le Seigneur a permis tant de difficultés dans la vie de l'apôtre Paul. Mais il y a une mesure de difficulté dans nos vies également, à chacun d'entre nous. Et la raison principale pour nous, c'est pour que nous puissions être morts à ce monde, que nous puissions ne pas dépendre du monde et que nous puissions être de plus en plus consacrés à l'éternité et au Seigneur. Et nous allons voir une autre semaine ces choses dans ces textes.